qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer?
Amen. Amen. Je voudrais aborder le thème de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, souvent, dans notre jargon, dans nos façons de parler un peu évangélique, on appelle souvent l'appel de Dieu cette aspiration à servir Dieu au travers d'un ministère. C'est souvent la vision que l'on a de la notion de l'appel. Il y a quand même trois versets, parce que si effectivement nous utilisons cette expression « appel de Dieu », c'est qu'il est en référence avec des expressions bibliques, notamment cette expression biblique, l'appel de Dieu, que nous trouvons effectivement dans trois versets. En Éphésiens chapitre 1, verset 18, il est dit que Dieu, c'est une prière que Paul exprime, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? On retrouve cette même expression en Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il y en a encore une troisième référence en la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. On ne va pas développer chacun de ces points, mais c'est quand même une base de réflexion essentielle. Parce qu'on s'aperçoit bien que Paul, quand il utilise cette expression « l'appel de Dieu », ne parle pas toujours de la même chose. Si vous relisez Éphésiens chapitre 1, verset 18, en fait là il parle de l'appel qui est lié au salut. L'espérance qui s'attache à son appel, la richesse, la gloire, l'héritage qu'il réserve au saint. Et nous allons voir que le premier appel, l'appel que Dieu a, c'est l'appel au salut. Il y a en Romains chapitre 11 un autre aspect de l'appel. Là, il faut vraiment lire dans le contexte de Romains et notamment du chapitre 11, où là, Paul parle d'Israël, le peuple de Dieu, qui a perdu sa raison d'être, sa vocation d'être. Le peuple d'Israël était le peuple qui était choisi par Dieu afin qu'il soit le porte-parole, afin qu'ils annoncent, afin qu'ils aillent de nation en nation, afin qu'ils annoncent la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. Israël a manqué cette vocation. Et c'est en ce sens que Paul va dire, bien sûr, Israël a manqué sa vocation, mais je vous rappelle que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et là, effectivement, la notion d'appel fait référence à un appel spécifique, un service spécifique. Toutes les nations n'étaient pas Israël. Israël était comme mis à part pour un rôle particulier, pour un ministère particulier. Et là, effectivement, la notion d'appel fait souvent référence à cet appel que l'on utilise. Et en Corinthiens, chapitre 7, verset 17, seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et là, on voit bien que l'appel est lié à notre manière de marcher. Que chacun marche selon l'appel. Que chacun ait son rythme de vie. Que chacun ait sa conduite. Que chacun soit dans la façon d'être, de faire, de ceux qui sont appelés. Et là, il nous est parlé tout simplement de notre manière de vivre. Et ce matin, on va voir les deux premiers points. Le premier point, on peut le lire, s'il vous plaît, en Actes chapitre 17. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme, c'est Jésus, qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce. D'autres traductions ont Dieu appelle, Dieu ordonne, Dieu fait savoir maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont, qu'ils doivent se repentir. Le premier appel que Dieu adresse est un appel universel. Dieu appelle tous les hommes, tous sans exception, quel que soit le lieu géographique, quelle que soit notre condition. Dieu appelle tous les hommes à se convertir. Dieu appelle tous les hommes. Mais comment est-ce que Dieu fait pour appeler tous les hommes, dites-moi? Et on le sait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu fait pour que tous les hommes, tous, quelle que soit leur situation géographique, soient amenés à la repentance? Y a-t-il des églises évangéliques tous les 20 mètres? Alors, allons même jusqu'au bout de la logique. Est-ce que tous les habitants de chaque ville sont poussés au moins une fois par an, sont convoqués à l'église évangélique pour qu'ils entendent le message de l'évangile, pour que enfin ils entendent le message de la repentance? Non. Dieu appelle. Dieu appelle tous les hommes. Dieu interpelle tous les hommes. Dieu fait savoir à tous les hommes au travers de toutes choses. Des événements, de la mort, des religions, des moments heureux, des moments malheureux. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et il n'y a pas une seule journée sans que l'homme ne soit pas confronté un moment à se poser des questions sur sa pensée, sur sa vie, sur la mort. Dieu appelle tous les hommes et Dieu utilise un moyen qui est la conscience. Dieu se sert de la conscience. N'est-il pas celui qui nous a créés avec cette conscience? Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Oh non, c'est moi, c'est mon intelligence !» D'accord, mais toi et ton intelligence, c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé autrement les chats, les chiens, les dromadaires. Mais toi, il t'a créé avec cette conscience. Et chaque être humain, tous les hommes sont appelés intérieurement, dans leur fort intérieur, dans leur conscience, à réfléchir à la conscience de Dieu, de la mort, du jugement, et donc à la repentance. Est-ce que tous les hommes répondent à l'appel de Dieu? Et pourquoi? Nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, notre conscience nous travaillait. Nous avions des raisonnements, nous avions nos arguments pour ne pas suivre le Seigneur, pour ne pas nous remettre en cause, pour ne pas nous repentir. Pourtant, nous n'avions pas forcément eu besoin de lire la Bible ni d'aller à l'église pour savoir que dans notre vie, il y avait des choses qui n'étaient pas terribles. Nous n'avions pas eu besoin d'un pasteur ou d'un curé ou d'un imam ou de quiconque pour nous dire que nous étions vraiment des mauvais. Il suffisait juste d'un peu d'honnêteté avec notre conscience pour savoir que nous étions un jour susceptibles d'être condamnés par Dieu. Certains rejettent l'idée de Dieu parce qu'ils disent que c'est leur éducation qui leur fait penser à ça, que c'est leur intelligence, que c'est leur raisonnement, que c'est leur philosophie. D'autres vont dire « Ah oui, mais c'est à cause du contexte. Comme les gens sont croyants, alors ils veulent nous pousser à croire en Dieu. » Mais ces gens-là, eux-mêmes se perçoivent qu'il n'y a pas de Dieu alors que leur propre conscience leur fait dire qu'il y a un Dieu. N'oublions jamais le rôle de la conscience. Et je sais que je ne parle pas seulement à des inconvertis, je parle aussi à des convertis. Parce qu'un grave danger serait de nous placer au-dessus de notre conscience. Sous prétexte qu'on est au Seigneur, sous prétexte qu'on va à l'église, alors soudainement, Dieu, quand il aurait à nous appeler, à nous parler, alors il utiliserait un canal encore plus extraordinaire. Par le Saint-Esprit ! Mais le Saint-Esprit travaille en nous. Amen. Mais il a éveillé notre conscience. La seule différence qu'il y avait avant et maintenant, c'est qu'avant, notre conscience, nous l'étouffions, nous l'écrasions. Elle était embrouillée par plein d'autres choses. Et bien sûr, la conscience ne suffit pas à nous conduire dans notre vie. Mais la conscience est le moyen que Dieu a mis pour nous appeler, pour nous interpeller. Et le jour où nous nous convertissons, notre conscience est épurée, nettoyée. Elle repère ce qui est bon, ce qui est mauvais. Elle est plus sensible à l'action du Saint-Esprit. Mais notre conscience fait toujours ce travail d'appel, de moyen d'appel de Dieu. Et c'est pourquoi je dis attention, nous aussi, enfants de Dieu. Ne pas nous croire au-dessus de notre conscience. Ne pas nous placer au-dessus d'un raisonnement ultra-spirituel où il faudrait absolument que ce soit par des signes, des prodiges, des miracles, une prédication qui nous fasse trembler comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Non. Dieu a mis en nous la conscience, et cette conscience, nous devons être sensibles. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu appelle tous les hommes, on en fait partie, hein, de cette universalité qu'ils ont à se repentir. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous travaille, nous invite au pardon, à la paix, quand notre conscience est en train de nous avertir que nous devrions plutôt résister au mal plutôt que de lui céder, quand notre conscience nous travaille à prendre plus de temps dans la prière, dans la méditation de la parole, quand notre conscience nous pousse à aller à gauche ou à droite, quand la conscience nous pousse à faire une démarche de foi, quand notre conscience est là et qu'elle nous interpelle, peut-être à des moments où nous on s'y attend pas, mais ça travaille au-dedans de nous, nous devons également obéir à cet appel. Sinon, nous ne serons pas meilleurs que les inconvertis, qui eux ont aussi la conscience, qui eux aussi se disent « mais c'est bizarre, et s'il y avait quelque chose après la mort ?» Et puis qui oublient, qui étouffent, qui font silence. Nous ne serions pas mieux que les inconvertis, qui s'entendent dire « oh, qui se plaignent constamment de leur vie, qui sont jamais contents de ce qui se passe, et quand on leur dit « mais viens, viens au Seigneur, tu verras, ta vie sera transformée. » Non, non, moi tout va bien. » Hypocrite d'hypocrite. Et ne serions-nous pas tant pareil, où nous étoufferions notre conscience sous un argument spirituel, sous l'argument que ça a toujours été comme ça? Faisons attention, parce que quand nous étouffons la conscience, nous étouffons l'appel de Dieu. Nous étouffons l'appel de Dieu. Bien sûr, l'appel, je le dis, ne suffit pas pour continuer. Mais il faut bien commencer par un appel. Prenons l'image simple d'un téléphone. Je peux vous appeler. Si vous décrochez pas, il n'y a même pas de conversation. Mais il faut au moins un appel pour qu'il y ait un début de conversation. Et Dieu appelle tous les hommes à répondre à cet appel. L'appel de Dieu, en fait, on le réalise que ce n'est pas forcément quelque chose qui contraint l'homme. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose qui oblige l'homme. L'appel de Dieu, c'est cette base du fort intérieur, de la conscience, d'un murmure doux et léger, de cette subtilité de l'esprit qui nous invite à lui obéir. Vous connaissez ce verset ? En Matthieu chapitre 22, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Oui, Dieu a beaucoup d'appelés. Oui, il y a autant d'appelés qu'il y a d'hommes et de femmes sur cette terre. Mais il y a peu d'élus. C'est quoi une élection? C'est un choix. Une élection, c'est un choix. Mais ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est nous qui choisissons de répondre ou non à l'appel. C'est ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu de gens qui choisissent de répondre à cet appel. Et faisons attention. Parce que chaque fois que notre conscience nous travaille, chaque fois que notre conscience nous appelle à, chaque fois qu'il y a ce travail de l'être intérieur, qui n'est point un rouleau compresseur, mais qui est plutôt comme,
comme ce vent, comme ce murmure doux et léger. Alors c'est à nous de répondre. C'est à nous de passer de l'appel à la conversation. C'est à nous de passer de l'appel à l'action. C'est à nous de passer de l'appel à l'élection. C'est à nous de rentrer dans la volonté de Dieu. Hébreux, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Comment pourrions-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut ?» Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Pour ceux qui ont entendu le Seigneur, nous en ont confirmé la valeur. Comment pourrions-nous échapper si nous négligeons un tel salut? Il y a des hommes et des femmes qui sont passés à côté de l'appel de Dieu par négligence. Ça a appelé, je verrai ça tout à l'heure, ça a appelé, ils ont mis ce répondeur. Ça a appelé, mais ils se sont gargarisés de raisonnement, ils ont étouffé la voix de leur conscience, ils ont appelé, ils ont étouffé l'appel de Dieu, ne réalisant pas que Dieu se sert de la conscience pour nous appeler. Qui se lèvera? Qui répondra? Qui acceptera de réaliser que ce murmure doux et léger est la voix de Dieu? L'appel de Dieu, nous devons y prendre garde. Parce qu'il y a des situations qui s'enveniment dans la vie de chrétiens parce qu'ils ne sont plus sensibles à la conscience. Et vous savez, plus on résiste à notre conscience et moins on est sensible au fait qu'on étouffe la voix de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On s'habitue. Je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu grossier, mais il y avait des gens qui disaient, vous savez, tuer quelqu'un, en fait, ça peut vous paraître horrible. Nous aussi, avant, ça nous paraissait horrible, mais le jour où j'ai commencé à tuer une personne, je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Et c'est ainsi qu'il était rentré, et que beaucoup rentrent dans l'engrenage de la mort, parce qu'en fait, ils avaient comme passé un cap dans leur conscience. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il peut nous arriver la même chose. Dieu nous a touchés, il nous interpelle. Et puis après, on s'habitue à discuter avec lui. On s'habitue à négocier. On s'habitue à faire le mal qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. On s'habitue à prendre de mauvaises habitudes dont notre conscience nous dit « Non, fais pas ça !» Mais on fait. Le jour où les choses s'enveniment, alors on réagit même mal. Parce que nous sommes habitués à blinder notre conscience. Nous sommes habitués à endurcir notre conscience. Comment échapperons-nous à la condamnation de Dieu si nous négligeons un si grand salut? Dieu est solennel. Parce que Dieu sait la valeur qu'il a mis en nous. Dieu sait comment il nous a fabriqués. Et Dieu sait l'immensité du trésor qu'il voudrait partager avec nous. L'appel de Dieu, après le salut, après cet appel universel, l'appel de Dieu concerne le peuple de Dieu. Je vous invite à lire en Éphésiens, chapitre 2. On peut lire à partir du verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Ben oui, on l'a vu ça tout à l'heure. Il nous appelle, on a juste à être honnête avec lui, à nous repentir et nous sommes sauvés. Alléluia. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car, et là nous rentrons dans le sujet, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Le deuxième appel, l'appel de Dieu, est premièrement universel. Il y a ceux qui y répondent et ceux qui n'y répondent pas. Ceux qui y répondent sont passés d'un statut d'homme et de femme insoumise à Dieu à une phase de disciple. Et là, il y a un autre appel. Parce que nous sommes dans une autre condition. Et là encore, l'appel aux bonnes œuvres concerne tous les disciples. Un appel à tout disciple. C'est ce qu'il est écrit. Quand il est écrit qu'il nous les pratiquions, nous sommes son ouvrage. Le nous, c'est qui? Bien sûr, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas ceux qui ne se sont pas encore repentis. Le nous, c'est ceux qui ont été créés, ceux qui ont été, allez, on va reprendre les mots bibliques, recréés, ceux qui sont nés de nouveau. C'est nous. Là, c'est nous. Là quand on lit le nous, c'est nous. C'est pas les autres, c'est pas l'univers. C'est pas les morts. C'est pas ceux qui ne s'inquiètent pas des choses de Dieu. C'est nous, nous qui avons été touchés, transformés par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes tous appelés à cela. D'ailleurs, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas fait naître de nouveau, juste comme ça, histoire de dire, tiens, on va faire quelque chose de super chez celui-là. Mais il nous a créés pour. Créés pour. On fabrique des voitures pour qu'elles roulent. On crée des téléphones pour téléphoner. On crée des chaises pour qu'on puisse s'en servir. Et ben Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Cet appel au service, cet appel aux bonnes œuvres, en fait, c'est notre devoir, c'est notre vocation. Chaque fois que je vois quelqu'un, là, tac, je vois une voiture, une chaise, un téléphone, comprenez? Je vois quelqu'un qui a été créé pour une bonne œuvre. Nous sommes tous créés par Dieu pour ces bonnes œuvres-là. Et ça, c'est l'appel que Dieu a mis sur chaque disciple. Nous devons, c'est notre responsabilité. Nous avons été conçus, nous avons été sauvés pour cela. Je vous le rappelle, et je sais que je rabâche souvent les mêmes choses, mais si le Seigneur nous avait juste sauvés pour être sauvés, bah, le jour où on aurait accepté le Seigneur, il nous aurait emmenés au ciel. Ça aurait été vachement mieux pour tout le monde, hein. Mais non, il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Oui, il nous a sauvés de l'enfer, alléluia. Ça, c'est l'appel. Mais il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Donc, lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, il y a un appel qui est instantanément associé à notre conversion. Je dois servir. Tu m'as sauvé, tu me laisses encore une journée pour que je serve. Tu me donnes deux mains pour qu'elles servent. Tu me donnes deux pieds pour qu'elles servent. Tu me donnes des oreilles, des yeux, une bouche, une capacité pour servir. Que chacun mette, et c'est 1 Pierre chapitre 4 verset 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Certains ont plein de dons, n'est-ce pas? Moi j'en suis un peu jaloux de ces gens-là. Puis d'autres, ils ont juste deux dons. Mais même si vous n'avez qu'un seul don, si vous savez marcher, vous avez un don, vous savez? Ouais? Vous avez le don de pouvoir vous déplacer pour exhorter quelqu'un. Si vous avez deux mains utiles, vous avez un don. Celui de pouvoir mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres, etc., etc. Réfléchissez à tout ce que vous avez comme don et tout ce que vous pouvez faire. Parce que Dieu vous a sauvé pour mettre en action chacun des dons que vous avez reçus. Est-ce que, et on peut se poser la même question, nous posions là tout à l'heure la question, est-ce que tous les hommes répondent à l'appel de Dieu? Alors, posons-nous aussi la même question. Est-ce que tous les disciples répondent à l'appel au service? On observe une grande disparité entre certains qui sont très engagés, de temps en temps même un peu trop. Et puis certains qui, au contraire, ne sont presque nulle part. Comment se fait-il qu'il y a cette disparité? Mais je crois qu'il y a le même raisonnement Parce que l'appel de Dieu n'a pas changé de nature. Nous disions tout à l'heure que Dieu interpelle les païens au travers de leur conscience, des circonstances, des événements, des religions, enfin plein de choses qui fait que l'homme est interpellé sur sa propre réalité, sur sa propre existence et sur l'éternité de son âme. Et s'il réfléchit en lui-même, il sait qu'il y a quelque chose à faire vis-à-vis de Dieu. Mais c'est pareil, l'appel de Dieu en tant que disciple est la même. Et c'est là que je disais tout à l'heure, faisons attention, nous en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas étouffer notre conscience. Parce que pour servir, Dieu va se servir du même canal. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Mettez-vous en action. Mais dans les deux cas, le Seigneur est souvent confronté à notre résistance intérieure. Parce qu'il est possible que nous disions oui de la bouche, mais qu'en réalité, au-dedans de nous, on n'a pas vraiment envie. Et on arrive aussi à étouffer notre conscience pour dire, oh, est-ce que c'est si important que cela? Quand le Seigneur nous appelle à le servir, parce que ce n'est pas une question de ressenti, mais c'est une question de devoir, quelle négociation faisons-nous au-dedans de nous? Alors qu'on est très capable de s'investir pour plein d'autres choses. Nous sommes très capables de consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent pour plein d'autres choses. Mais lorsque notre conscience nous invite à travailler, à investir, à nous engager dans le service pour l'œuvre de Dieu, alors là, il y a un petit quelque chose au-dedans de nous qui fait que la balance penche plus d'un côté pour certains et plus de l'autre côté pour d'autres. Dieu compte sur nous, vous savez. Je trouve pas le mot, mais ça me parle. Quand on voit que suite aux attentats, à cette menace dont la population se sent là oppressée, la gendarmerie et l'armée reçoivent des centaines, des milliers de candidatures chaque jour pour s'engager au milieu de l'armée française. Jamais ils n'ont reçu autant d'appels, autant de sollicitations. Les jeunes veulent s'engager. Et c'est par centaines, par milliers. Ils le disent par rapport à ce qu'on a vu. On veut s'engager. On ne peut pas rester inactif. Il faut qu'on se lève. Je ne peux pas rester dans cet état-là. Et plusieurs veulent s'engager au prix de leur vie, ils en sont conscients. Des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont vécu dans un pays de paix, de tranquillité, de sérénité, de confort, réalisant la conscience d'une menace, décident de se lever. Est-ce que c'est Dieu qui les a appelés? Est-ce que c'est les maires qui les a appelés? Est-ce que l'État a fait de la pub pour dire « engagez-vous, on a besoin de vous » Pas du tout. C'est leur conscience qui les a fait se lever, qui les a fait prendre cette décision, qui les a fait sortir de leur chez-eux, de leur confort, sachant qu'ils allaient peut-être en payer de leur vie, mais ils sont déterminés pour, parce que leur conscience les a réveillés. Je rêve le jour où notre conscience sera réveillée, parce qu'une menace bien plus grande pèse sur notre humanité que celle d'un attentat. Un attentat qui tue 130 personnes qui est au Seigneur, c'est rien du tout. Un attentat qui tue une personne, qui va en enfer, ça a de l'importance. Il y a une menace qui est bien plus grande pour tous ceux qui nous entourent, c'est leur éternité. Et je rêve que l'Église puisse réaliser notre appel à nous engager dans l'armée du Seigneur pour œuvrer dans les œuvres bonnes qui, elles, ont un prix d'éternité. Amen. Nous sommes appelés. Le Seigneur compte sur nous. Il compte sur nous. On parlait tout à l'heure d'un message universel. Mais il va se servir de qui pour communiquer ce message universel? De nous. Il compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Et il y a des hommes et des femmes qui sont dans le besoin, dans la détresse. Qui ont besoin de consolation. Mais Dieu compte sur qui pour les consoler? Sur nous. Nous avons un ministère, nous avons un service, nous avons un appel pour conduire les âmes, les femmes, les enfants. Que Dieu touche notre cœur, que Dieu touche notre conscience pour que nous ouvrions nos yeux et que nous agissions dans ce que nous pouvons faire. Vous savez, mes bien-aimés, si je décide de ne rien faire, je suis sauvé. Alléluia. Mais voilà que toutes les fois que ma conscience m'invite à peut-être faire plus, m'engager davantage, œuvrer, m'investir dans le royaume éternel en faveur des autres, si je ne fais rien, je risque de passer à côté du plan de Dieu, tout simplement. Dieu va m'appeler, moi personnellement. Mais moi, je vais dire, ouais, non, j'ai autre chose à faire, vous comprenez, j'ai autre chose, j'ai un planning chargé, Seigneur. Et on risque de passer à côté de l'appel de Dieu. Et si on passe à côté de l'appel de Dieu, on va spirituellement s'effriter, on va spirituellement en perdre. Notre joie va perdre, notre enthousiasme va se perdre. Parce que d'un côté, il y a notre vocation, nous sommes faits pour, mais nous répondons contre. Et au bout d'un moment, on se dit, mais comment ça se fait? J'arrive plus à prier, c'est plus pareil, je suis pas épanoui, mais oui, c'est normal. C'est comme si vous prenez une voiture et que vous la mettez sur un parking, au bout d'un moment, elle va rouiller, elle va prendre la poussière, elle va être moche et inutile. Elle va vous coûter de l'argent pour rien. Nous sommes appelés pour de bonnes œuvres, créés pour. Et si nous ne faisons rien, alors nous allons voir que spirituellement, nous allons en perdre. Il est parfois difficile, long. De temps en temps, on tâtonne pour savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions précisément. Nous allons aborder la prochaine fois, avec de nombreux exemples bibliques, effectivement, comment Dieu s'y prend pour nous amener à des services spécifiques, à réaliser pleinement l'appel que le Seigneur a pour nous. Mais avant de voir ça, il y a quand même un principe spirituel simple. Il se trouve en Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Parce que si le Seigneur nous dit d'un côté que nous sommes tous appelés à servir, est-ce que nous sommes tous appelés à être des prédicateurs? Est-ce qu'on est tous appelés à être des évangélistes? Est-ce qu'on est tous appelés à s'occuper des enfants? Est-ce qu'on est tous appelés à la musique? Est-ce qu'on est tous appelés au ménage? Est-ce qu'on est tous appelés à rendre visite? Est-ce qu'on est tous... Non! Mais il y a un principe. Et ce principe est simple. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est bien avec Dieu parce qu'il est simple. Il est simple avec nous. Il dit, je t'ai créé pour que tu serves. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Voilà. Seigneur, révèle-moi, montre-moi, je veux faire ta volonté. Seigneur, montre. Et il te dit, ouvre les yeux. Ah oui, ah. C'est simple. Il y a des fois dans la prière, il faut être un peu moins spirituel, pardonnez-moi. Tout ce que ta main trouve, fais-le. Si tu sais que tu as quelque chose à faire, fais-le. Tu vois un morceau de papier par terre, il gêne, il est moche, prends-le, mets-le à la poubelle. Tu vas faire une œuvre bonne. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais toutes les œuvres bonnes que tu sais pouvoir faire. Saisis les occasions. Pas besoin de partir jusqu'en Chine, pas besoin de partir je ne sais pas trop où. Si c'est ici, à côté de toi, que le Seigneur te donne l'occasion de faire, fais. Pas besoin d'avoir une révélation particulière. Là aussi, il y a de temps en temps des principes qui ne sont pas très, très bibliques. Si je ne fais rien parce que j'attends une révélation particulière, Seigneur, je ne fais rien parce que c'est toi qui vas me montrer particulièrement ce que j'ai à faire. Mais en fait, ce n'est pas cohérent avec la logique de Dieu. D'ailleurs, en d'autres contextes, Dieu nous explique que Dieu va d'abord nous confier de petites choses pour voir si on est fidèle dans ces petites choses afin de nous en confier d'autres. Dieu est cohérent avec lui-même. Donc si nous ne sommes pas capables de faire tout ce que notre main trouve à faire, en quoi est-ce qu'il va nous confier d'autres choses? Je me souviens un homme qui voulait s'engager dans un service d'accompagnement auprès des un peu des marginaux. Je me disais, ok, pourquoi pas et tout. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez lui. Et chez lui, c'était terrible, c'était sale, c'était mal entretenu, mais vraiment dégoûtant quoi. Et en plus, c'est son déménagement que j'ai fait donc. Il y avait le visible et puis le derrière du visible, quoi. Waouh. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il veut accompagner des gens à se sortir de leur misère, mais lui-même, il vit dans sa misère. Il faut que nous soyons cohérents. Fais ce que ta main trouve à faire. Mais c'est en faisant les choses que les choses vont se dévoiler, se révéler. Il y a quand même un équilibre qui est celui de la sagesse de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force. Il n'est pas question là de nous engager à faire tout, n'importe quoi. Non, il y a avec ta force, avec tes moyens, avec ta capacité, selon tes disponibilités. Le Seigneur est un Dieu d'équilibre. Il ne nous demande pas de faire l'impossible, il ne nous demande pas de nous engager dans tout et dans n'importe quoi. Il sait que nous avons des responsabilités que nous devons assumer. Et donc, il y a cette sagesse. Souvent, et j'anticipe déjà quelques états de cœur, mais souvent, quand il y a des appels comme ça à servir, c'est souvent les mêmes qui culpabilisent. Ceux qui sont déjà super investis, et oh, mais il faudrait faire ça aussi. Et puis ils sont gênés, ils sont culpabilisés parce qu'ils sont déjà investis dans plein d'autres choses. Ils n'ont pas le temps, mais ils sont gênés parce qu'ils aimeraient pouvoir le faire. Mais comme ils ne peuvent pas, ils culpabilisent. Il n'y a pas à culpabiliser. Il faut faire tout ce que notre main est capable de faire. Il n'est pas intention là de pousser à l'activisme. Là aussi, c'est un autre piège que le diable, est, de temps en temps, utilise dans notre vie. Nous ne sommes pas appelés à faire pour faire, mais à avoir au moins cette mentalité de dire: Seigneur, s'il y a quelque chose que je peux faire qui est dans mes cordes, Seigneur, je veux pouvoir le faire. Je veux me rendre disponible. Je veux me donner là, honnêtement, consciemment, la possibilité de faire ce que je peux faire. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est quoi le baptême? C'est la définition du baptême. Un engagement de quoi? D'une bonne conscience devant qui?
Devant Dieu.
Et là, on revient au béaba de notre vie spirituelle. Un engagement de bonne conscience devant Dieu. Oui, tu m'as sauvé. Oui, Seigneur, je comprends que en me sauvant, tu m'appelles à te servir. Alors, en toute bonne conscience, je vais choisir de te servir. Si je peux, je fais. Si je peux pas, je vais pas culpabiliser. Je peux pas, c'est tout. Mais je veux premièrement faire tout ce que ma main trouve à faire. Et c'est ça qui est beau dans la vie chrétienne. On ne vit pas selon les hommes, on ne vit pas selon des diktats, on ne vit pas selon des critères humains, on vit selon une bonne conscience devant Dieu. Et peut-être qu'avant de faire, il faut peut-être se réconcilier, il faut peut-être renoncer à des péchés, il faut peut-être œuvrer différemment, il faut peut-être gérer notre temps différemment, il faut peut-être se lever un peu plus tôt, si c'est possible. Ou se coucher un peu moins tard, ce qui est aussi possible. Mais nous sommes appelés à vivre selon une bonne conscience, une conscience nette, que chaque fois qu'on rentre en nous-mêmes, tout soit bien réglé dans notre conscience, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait pas un petit truc là qui rumine un peu au-dedans de nous, on se dit, c'est vrai que là, est-ce que je suis vraiment au clair quoi? Tout devrait être au clair, que le Seigneur nous aide à ça. Cette bonne conscience, cette netteté, qui ne cherche pas à se justifier, qui ne cherche pas non plus à se cacher. Seigneur, donne-moi cette bonne conscience. Je veux avoir cette bonne conscience. Le service, et nous aurons peut-être l'occasion de revoir ça la prochaine fois. Mais l'appel aux bonnes œuvres, au service, l'appel de tout disciple, ne se fait pas non plus de manière individuelle, autonome, indépendant. Le service, les œuvres bonnes, elles sont toujours dirigées vers les gens, vers les autres. Et on avait déjà eu l'occasion de développer le thème, c'est pour ça que je ne vais pas revenir trop longuement ce matin. Mais le service, c'est les autres qui doivent l'estimer. C'est les autres qui doivent l'évaluer. Pendant un temps, je faisais partie d'une chorale. Et il y avait des gens qui voulaient chanter à la chorale. Alors on les prenait. Et puis une fois ou deux, j'étais pas responsable de l'équipe, mais je faisais partie de la chorale, donc on s'est fait avoir. Parce qu'il y en a, ils chantaient faux! Mais une fois qu'on a dit à quelqu'un, mais oui, viens chanter! C'est pas facile de dire après, tu sais, t'es vraiment sûr? Ah bah oui, j'aime trop chanter. Ah oui, bah c'est bien. Le service n'est pas quelque chose qui doit chercher à notre épanouissement personnel. Notre service, c'est pas pour qu'on existe. On n'existe pas au travers d'un service. Mais on doit être utile. Et c'est les autres qui vont nous dire, oui, ça c'est ta place, ça c'est pas ta place. Il y a tant de gens comme ça qui croient qu'ils ont reçu quelque chose. Le Seigneur m'a appelé. Ah oui, c'est superbe. Mais est-ce que c'est ta conscience qui veut être appelée ou est-ce que le Seigneur t'a appelé? Mais on va voir ça, justement, là, la prochaine étape. Qu'est-ce qui définit un service particulier, un appel particulier? Parce que Dieu appelle aussi, comme il a appelé le peuple d'Israël. Et là aussi, il serait tellement dommage de manquer l'appel de Dieu. L'appel à des ministères, l'appel à des services particuliers, l'appel à des dons. Le Seigneur a des richesses. Qui se lèvera? On en revient. C'est une notion de conscience. Ce n'est pas un formatage. Ce n'est pas une auto-proclamation. Ce n'est pas une décision personnelle. Alors en conclusion, gardons à l'esprit ces quatre points. L'appel de Dieu utilise le simple canal de notre conscience, de notre fort intérieur, du travail de notre âme. Quand Dieu nous appelle, il nous interpelle par notre conscience. N'attendez pas une révélation, une prophétie, une prédication inspirée, un truc qui va se passer. Non, Dieu se sert du simple canal de notre conscience. Et plus nous avons une vie de prière, et plus notre conscience sera sensible et prompte à mieux discerner les choses. Tous les hommes sont appelés à se repentir, tous. L'appel de Dieu est premièrement un appel universel. Tous les chrétiens, tous les disciples sont appelés à servir, tous. Tout comme tous les hommes sont appelés à se repentir, tous les chrétiens. Je vous regarde tous là, je ne vais en rater aucun. Je ne te cache pas derrière, voilà, très bien, merci. Nous sommes tous appelés à servir, tous. Vous pouvez esquiver mon regard, mais vous ne pouvez pas esquiver le regard du Seigneur. Et tous, le Seigneur veut que nous fassions quelque chose pour son œuvre. Selon la mesure de ce que l'on peut faire, évidemment. Quatrième point, le dernier. Le service n'est donc pas une question de ressenti, d'envie, de disposition particulière. Le service est une question de devoir. Le service est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Le service est une question de vocation. Nous sommes appelés à cela. Amen. Et nous verrons la prochaine fois, par de nombreux exemples bibliques, que plus nous nous engageons dans le service. Et c'est ça, c'est pour ça que Dieu a des principes qui sont très simples. Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que nous verrons que plus nous investissons dans l'œuvre de Dieu, plus nous obéissons à ce commandement-là, plus nous avons cette mentalité à vouloir nous rendre service, à rendre service et à nous rendre utile, pardonnez-moi, plus la consécration, la fidélité est là, et plus nous discernons le service que Dieu a réservé pour nous. Mais ça, nous verrons ça avec plein d'exemples bibliques. Mais plus nous engageons, plus nous servons, plus nous avons cette humilité, ce désir d'obéir à Dieu, dans les petites choses ou dans les grandes, qu'importe, plus nous discernons ce que Dieu veut véritablement pour chacun d'entre nous. Amen.